Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, une émission qui sera placée sous le signe du Festival de Cannes, où nous ne sommes pas encore, mais on a quand même une sorte d'espion. Un des membres de l'équipe, c'est Marine, qui a déjà posé ses valises, qui a tenté d'assister à la cérémonie. On verra que ça ne s'est pas passé comme prévu, mais tant pis. En tout cas, elle aura l'occasion de voir d'autres films, et nous aussi. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
D'ailleurs, toi, t'en as vu encore beaucoup, t'as bien travaillé cette semaine.
Et oui, j'en ai profité pour regarder un film dans mon canapé sur Netflix qui s'appelle Anon, et puis j'ai vu Action ou Vérité, le remake de Injusticier dans la ville, Death Wish, et puis un film lituanien, Miracle.
Et puis moi, j'ai vu un film mexicain qui sera dans les salles à partir du 9 mai, c'est Los Adioses. Et puis j'ai préparé un blind test spécial Cannes, quand même, parce que c'est presque la coutume depuis l'an dernier. C'est Cinérama qui débute avec justement le 71e Festival de Cannes.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Le Festival de Cannes, 71e édition, c'est du 8 au 19 mai. Et l'équipe de Cinérama y est, alors partiellement pour l'instant. Pour l'instant, il y a seulement Marine. Et Marine, alors on pensait qu'elle pourrait assister à la représentation avec Javier Bardem et Penélope Cruz pour le film de Asghar Farhadi. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, Marine.
Non, absolument pas. Bonjour. Alors là, je suis sur la Croisette, hein, pour resituer un petit peu. Je suis pas exactement dans le coin le plus glamour, pour préciser. Je suis même devant le McDo, plus précisément, et je suis assise par terre, hein, parce que Cannes, c'est pas toujours du glamour, comme on le sait. Alors, en effet, je suis arrivée hier soir et je devais assister donc à la cérémonie d'ouverture, du 71e Festival de Cannes, présenté cette année par Edouard Baird. Et ce que j'espérais surtout, c'était de voir le nouveau film d'Asghar Farhadi, Everybody Knows, ou plutôt Todos los sabem, puisqu'à Cannes, on dit les titres dans la langue d'origine. Son nouveau film, donc avec Penélope Cruz et Javier Bardem, ce qui faisait quand même en tout, avec lui, trois bonnes raisons d'arriver à l'heure pour obtenir une invitation. Parce que voilà, à Cannes, pour assister à l'ouverture, il faut avoir au préalable retiré son accréditation, mais ça ne suffit pas. Il faut également obtenir une invitation pour la soirée, dans mon cas en passant par une tierce personne. Et pour finir, il faut être parfaitement habillé pour avoir le droit de monter les marches, ce qui a tendance à vous mettre un petit peu en retard, enfin surtout moi. Et du coup, j'ai suivi la cérémonie sur Twitter. Je me suis contentée de manger une mozzarella sur la Croisette. Je n'ai pas eu droit au dîner d'ouverture. Déception pour moi, qui avait chroniqué il y a deux semaines dans Cinérama le précédent film, hein, du duo Cruz-Bardem-Escobar. Alors pour ce Todos Los Sabem, le réalisateur iranien Asghar Farhadi s'est donné le défi de tourner en espagnol et en Espagne, après avoir tourné Le Passé, son précédent film, en France et en français. Une séparation sortie en 2011 avait réuni 850 000 spectateurs. Alors peu de chance apparemment que son nouveau film réitère l'exploit. La presse a assez mitigé, se demandant même si Todos Los Sabem a sa place en compétition. Et alors les gens qui l'ont vu, parce que j'ai quand même quelques contacts, qui ont réussi à entrer à la soirée d'ouverture, les gens qui l'ont vu estiment qu'il s'agit d'un thriller assez convenu, mais pas exceptionnel. Et surtout d'après eux, Farhadi est meilleur lorsqu'il livre une vision acerbe de la société iranienne, ce dont quoi il excelle même, et ce à quoi il renonce ici en plaçant l'action dans le sud de l'Espagne. Sinon, à Cannes, rien n'a changé depuis l'année dernière. C'est toujours la même frénésie, c'est toujours la course pour retirer ses accréditations. Ensuite, c'est la course pour aller voir des films. Et alors, en croire les files d'attente que j'ai pu voir ce matin devant la salle Debussy, j'ai l'impression qu'il y a même encore plus de monde que l'année dernière. Moi, aujourd'hui, je vais tenter d'aller voir Rafiki de Wanuri Caillou, une histoire d'amour homosexuel contrarié au Kenya, et un autre film qui s'appelle Donbass, un film ukrainien qui parle de la guerre en Ukraine. Encore une fois, comme on peut le voir à Cannes, une sélection de comédies. On va beaucoup rire à nouveau. Et je pense que, comme l'année dernière, je vais me concentrer sur la sélection un certain regard qui propose toujours des films assez audacieux. Et au moment où je vous parle, il commence à pleuvoir. Il commence à me pleuvoir dessus, là.
Et oui, ça, c'est le paramètre, hein, parce que tu dis que rien ne change à Cannes, mais l'an dernier, il faisait extrêmement beau. Enfin, moi, j'avais trouvé. Et cette année, le climat pourrait être un peu contre nous. Mais bon, c'est une bonne raison de se réfugier dans les salles.
Hein. C'est le gros souci, en fait, à Cannes. On ne sait jamais s'il faut emmener une robe de soirée ou une doudoune. Mmh. Et là, cette année, ça serait plutôt doudoune, hein, quand même. Voilà.
Bon, eh bien, en tout cas, bon courage. À noter que cette année, la presse a un peu crié parce que avant, elle avait la primeur de voir les films en compétition. Les films en compétition sont projetés à 15h et puis 20h30. Et auparavant, la presse pouvait les voir avant. Et maintenant, il y a un blackout et la presse peut les voir seulement en même temps. Voilà, ce qui change un peu le timing de toutes les rédactions.
En même temps, c'est également une année où le festival s'ouvre au public davantage, avec plus de places attribuées aux cinéphiles et au public, et ce qui est, je pense, pas plus mal. Parce que c'est quand même la vocation première d'un festival de cinéma.
Eh bien, merci Marine, on te rejoint très vite avec Manu. Et on sera tous les trois à Cannes.
À très vite.
Alors Cannes, c'est aussi une histoire pas très claire avec la télévision ou par le flux d'images, c'est-à-dire Netflix. Devant le refus du festival d'accepter en compétition des films qui ne sortiront pas en salle au nom de la fameuse chronologie des médias françaises, Netflix a décidé de boycotter le festival de Cannes. Thierry Frémaux, le patron du festival, a bien proposé de projeter les œuvres hors compétition. Mais la plateforme américaine l'a plutôt mal pris. Déjà l'an dernier, les films Netflix en compétition avaient été boudés par le président du jury, Pedro Almodovar. Alors ça suffisait pour les affronts, car les patrons de Netflix parlent de manque de respect. Alors parmi les déceptions, on ne découvrira pas The Other Side of the Wind, le film qu'Orson Welles a laissé inachevé en 1976 et que la plateforme américaine a restauré. Alors le producteur évidemment le déplore et les spectateurs aussi. Quant aux téléspectateurs, ils n'ont rien à craindre parce qu'eux, ils le verront forcément s'ils sont abonnés. Et c'est ce que tu es. Tu es abonné à Netflix.
Effectivement.
Et tu as pu voir un film avec Clive Owen.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Hier soir, quand j'étais lancé à ses trousses, c'est là que ça commence. Elle modifie ce que je vois. L'escalier, il s'étire. C'était une illusion d'optique. Illusion qui ensuite a disparu de mes archives. Et c'est pas fini. Juste après, je vois un métro à l'arrêt sur le quai de la station. Un métro qui n'existe pas.
Alors l'autre polémique à Netflix, plus d'ordre artistique, tient à la qualité des films eux-mêmes, souvent très contestable. Alors c'est jamais un très bon signe lorsqu'une grosse production ou un film signé par un auteur se retrouve directement sur la chaîne de streaming. Alors il y avait Bright, un navet futuriste avec Will Smith, le prétentieux pensum d'Alex Garland, Annihilation, ou encore le décevant Mute de Duncan Jones, réalisateur pourtant de l'excellent Source Code. Alors le constat, on peut le dire, est assez triste. Alors ayant côtoyé les hautes sphères dès son entrée dans le 7e à la fin des années 90 avec le remarquable Bienvenue à Gattaca et aussi Truman Show en tant que scénariste, Andrew Niccol n'a jamais su digérer ses débuts fracassants, ne cessant de décevoir au fil des années, du sympathique Lord of War jusqu'à ses avant-derniers films Time Out et Les âmes vagabondes en tête. Alors il revient donc avec Anon par la petite porte avec une production allemande au budget modeste de 20 millions de dollars, ce qui, au regard du genre abordé, la SF paraît quand même assez étriqué. Le point de départ d'Anon est pourtant très excitant, comme un retour aux sources pour le cinéaste avec une description d'une société dystopique particulièrement inquiétante. Alors dans un futur où l'intimité a été proscrite, un enquêteur traque un serial killer qui a été effacé de tous les enregistrements visuels. Alors détail amusant puisque le flic incarné par l'excellent Clive Owen s'interroge sur le profil de l'assassin, bizarre un tueur qui ne souhaite pas être attrapé. Alors bienvenue dans un avenir un peu fascisant où la technologie a totalement verrouillé les libertés individuelles. La police sait absolument tout de vous. Alors entre l'enquête policière traditionnelle et la fable d'anticipation désenchantée, Anon est une réussite modeste grâce à la mise en scène ultra léchée et distante de Niccol, qui sait très bien mettre en valeur ses décors froids et aseptisés. La lumière métallique et la beauté glacée des cadres à la lisière de l'univers publicitaire sont parfaitement adaptés à cette histoire de déshumanisation. Alors Niccol alterne intelligemment aussi le scope pour la réalité et le 1.85 pour toutes les visions subjectives, évitant ainsi un brouillage de perception inutile. Alors dommage que le scénario quand même mécanique ne fasse qu'effleurer la réflexion sur les dangers d'un monde sous contrôle visuel comme dans 1984 et s'oriente davantage du thriller routinier avec un retournement de situation paresseux. Alors un petit film d'anticipation sympa mais assez superficiel dans son traitement qui doit beaucoup au personnage fascinant d'Anon, cette fille mystérieuse qui a décidé d'effacer son identité et qui se retrouve être la principale suspecte.
Quelqu'un tue mes clients en essayant de faire croire que c'est moi.
Elle te manipule.
Je ne suis pas en sécurité. Et toi non plus.
On doit pouvoir croire nos yeux. Le système s'écroule.
Voilà, le système Netflix ne fonctionnera pas avec celui du Festival de Cannes cette année, mais on tenait quand même à en parler et on va retourner au Festival de Cannes et plutôt dans le passé avec les Palmés. Les Palmés, il y en a eu beaucoup parce que c'est la 71e édition, il y a eu des ex-échos, donc autant dire que ça fait beaucoup de blind tests. On vous en propose un parmi tant d'autres et on écoute un premier extrait, il suffit de deviner le titre.
Tu veux que je te dise ? Tu crèpes de peur, t'es une gonzesse.
Ah, je te défends de dire ça, hein, si t'étais passé par où je suis passé.
Ah non, dis tes histoires pelopes, hein. T'as peut-être été un homme dans le temps, je dis pas, mais ça remonte à ma grand-mère, ça. Maintenant, tout ce que tu sais faire, c'est de descendre les types dans le dos, là, sans risque. Parce que les risques, tu les aimes pas, hein.
Mais je les aime pas parce que je les connais. Toi, t'es comme ça, tu comprends? Tu fonces sans regarder, tu crois que t'es incassable. C'est facile parce que t'as pas d'imagination. Moi, je guette le caillou ou le trou qui va nous faire sauter.
Manu, t'as trouvé.
Salaire de la peur de Clouzot, 53, je dirais.
Oui, et il avait aussi remporté l'ours à Berlin cette année-là. Deuxième extrait.
Je trouve qu'on surestime beaucoup le sexe. Je crois que pour la plupart, les gens lui prêtent une importance exagérée. Et je crois fausse l'affirmation que les femmes éprouvent le même désir que les hommes. Je pense aussi que les femmes en ont autant envie, mais pas pour les mêmes raisons qu'eux. Et... je me perds un peu. J'espère que vous me comprenez.
Oui, oui, oui. Tenez, ça me rappelle un truc que j'ai lu. On prétend que les hommes, eux, apprennent à aimer la personne qui les attire. Alors que les femmes, elles, sont de plus en plus attirées vers la personne qu'elles aiment.
Alors, pour moi, c'est un grand faiseur d'images, un grand réalisateur d'Hollywood et puis aussi qui fait bien plein de choses comme ça. Il avait impressionné, c'est un des plus jeunes Palmés, voire le plus jeune Palmé.
Ah, c'est le film de Soderbergh, oui. Le sexe, mensonge et vidéo.
Oui, Palme d'or 89, oui. Et qui a valu aussi à James Spader le prix d'interprétation masculine, James Spader qu'on a quasiment plus vu après.
Les gestes se fixent tous dans une même attitude. Le geste du crime, partout le mal. Voilà le mystère de ta génération. Des dizaines d'hommes et de femmes liés par les fibres du même cancer. Tu t'es reconnu dans les tiens. Tu ne te distingues plus du troupeau. Pas un acte de ta vie qui n'est ailleurs sans double. Pas une pensée qui te soit propre. Une pensée qui n'est pas morte avec les morts. Pas un geste qui ne fut depuis longtemps tracé. Non pas semblable, mais exactement les mêmes. Non pas répété, mais unique. Tu la sens l'immense tromperie de ta vie? Tu l'entends le rire de celui qui te trompe? Chacun de tes misérables ancêtres a reconnu et flairé en toi son bien et vient le reprendre, et toi, tu abandonnes tout. C'est comme si ce troupeau venait manger dans ta main sa propre vie. Que veux-tu leur disputer? Que veux-tu leur reprendre? Ils te laissent la faute dans ton cœur d'enfant.
Période flamboyante de Pardieu.
Et c'est Sous soleil de Satan de Piala, film qui avait fait la polémique d'ailleurs.
Ah oui, en 87. Et il avait fait la polémique. En tout cas, les journalistes avaient sifflé quand il avait obtenu la Palme d'Or parce que tout le monde pensait... surtout les journalistes, qu'elle reviendrait à Wim Wenders avec Les ailes du désir, qui est bon aussi un film.
Et il a fait un joli bras d'honneur.
Quatrième extrait de ce blind test spécial Cannes.
Est-ce que tu sens quoi? Le napalm, fils. Y a rien qui sente bon comme ce truc-là. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Une fois, on avait lâché une chier de bombe, arrosée pendant 12 heures de rang, et quand on est allé voir. On n'a pas trouvé un macabre de Viette, il n'y en avait plus un seul. Ça emboumait, toute cette essence, ça sentait bon. La colline sentait. Ça fleurait. La victoire, quoi.
Ah, c'était facile.
Apocalypse Now de Coppola.
Ouais, ex aequo avec le tambour de Volker Schlondorf. J'aurais pu passer aussi un extrait d'un petit garçon qui crie. Mais j'ai préféré eh bien, ce discours d'amour sur le champ de bataille. Dernier extrait, c'est extrêmement facile aussi.
Si les niaques voyaient sa montre, elle lui serait confisquée. Il le savait. Et pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que les niaques mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils. Alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autres cachettes, il se les mise dans le cul. Il fallait avoir du courage pour le faire, se la mettre dans le cul.
Et comme quoi, aussi, pas des comédies, mais des films un peu décalés peuvent gagner la palme.
Pulp Fiction, donc 94.
Voilà, ainsi s'achève ce blind test spécial Cannes. Eh bien, on en retrouvera un autre la saison prochaine. Allez, maintenant, eh bien, c'est l'actu cinématographique hors Cannes.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
À quoi tu joues?
Écoute, je sais que ça paraît dingue, mais c'est pas un jeu. On peut pas passer son tour, ok? Où que tu ailles, quoi que tu fasses, il te retrouvera toujours. Dis la vérité ou tu meurs. Relève le défi ou tu meurs. Si tu abandonnes la partie, tu dois suivre les règles, c'est tout.
Manu, tu étais excité à l'idée d'aller voir Action ou Vérité ?
À la base, oui, parce que comme c'est une production Jason Blum, on peut toujours tomber sur de bonnes surprises. Alors, mais qui n'a pas subi les conséquences de ce jeu stupide dans sa pré-adolescence ? Un grand moment d'angoisse et de solitude lorsque, par inconscience, vous vous lancez dans un action. Alors, tant qu'il s'agissait d'embrasser la voisine, tout allait pour le mieux, mais la mascarade pouvait très bien devenir embarrassante, voire humiliante, comme se balader à poil devant tout le monde. Bref, que de beaux souvenirs qui ont dû réveiller la fibre ado de pas moins de 4 individus scénaristes qui ont pondu le scénario rigolo et crétin d'Action ou Vérité, à mon avis, un soir de cuite. Alors, visiblement, l'idée a séduit le producteur, hein, Jason Blum, qui sort d'une série de films quand même plus ambitieux, Get Out et Split en tête. Mais Blum, c'est aussi une poignée de navets, hein, comme les Paranormal Activity ou encore Ouija. Mais bon, sur une centaine de films produits par le nouveau Roger Corman, normal que le meilleur côtoie le moins bon. Action Vérité fait hélas partie des projets mineurs du producteur, sans être le ratage industriel tant redouté. Alors, surfant du côté des franchises à concept style Destination Finale, ce teen movie horrifique, outre son postulat grotesque, mais pourquoi pas au fond, hein, ne raconte au final pas grand-chose de nouveau et déroule paresseusement son cahier des charges. Alors, on a un groupe d'étudiants, hein, partent au Mexique pour leur dernier spring break avant de sagement rentrer dans le rang. Le dernier soir, après quelques jours ininterrompus de fiesta, imbibés d'alcool et saupoudrés de sexe, un étranger les convainc de finir en beauté, jouer à Action ou Vérité dans une sorte de chapelle abandonnée. Alors le jeu commençait, hein, une force maléfique se réveille et force le groupe d'amis à révéler leurs plus sombres secrets ou à commettre d'irréparables. Les règles sont simples, hein, dire la vérité ou mourir, ou arrêter de jouer et mourir. Bref, l'issue devient quand même compliquée.
Il se passe des trucs super bizarres depuis qu'on est revenu du Mexique.
Arrête, s'il te plaît.
Je rigole pas, je vois des choses. Action ou vérité ?
Action.
Je sais que ça paraît dingue.
Juste un peu. Cette charmante jeune femme vient de me mettre au défi de vous montrer mon matos.
Déjà vu, rien d'impressionnant.
Carter a été clair. Tu dis la vérité ou tu meurs. Tu relèves le défi ou tu meurs.
Si t'abandonnes la partie. En fait, ça me gonfle. Tu meurs.
On joue pas. On est juste des pions. Qu'est-ce qu'on fait alors ?
Choisis toujours vérité.
Action, vérité !
Ce jeu est trop fort pour nous. La moitié des personnes sur cette photo sont mortes. Faut qu'on découvre ce qui est à l'origine de tout ça.
C'est ton tour.
Je dois choisir laquelle de vous deux je vais tuer.
Action ou vérité ?
On a condensé.
À partir de ce pitch un peu débile quand même, hein, les auteurs ont imaginé une série de situations amusantes au début, mais rapidement lassantes par leur déroulement mécanique, obéissant au code du slasher le plus basique. Alors Jeff Wadlow, le réalisateur, déjà coupable d'un kick-ass 2, de sinistre mémoire, mais aussi du réussi Cry Wolf. Alors il fait ce qu'il peut pour sauver les meubles et s'avère même un artisan consciencieux, filmant plutôt bien les pauvres mésaventures de personnages inconsistants. Alors la pauvreté des dialogues n'aide pas beaucoup à s'intéresser à ces histoires de trahison, de secrets enfouis, mis à nu à cause du jeu, alors faisant voler en éclats des amitiés qui semblaient soudées. Alors dommage, une idée était intéressante, mais peu exploitée, le fait que tout le monde ment, même lorsqu'on s'efforce d'être le plus honnête possible. Mais le potentiel de cette évidence est à peine effleuré, la nunucherie reprenant vite le dessus sur la noirceur des rapports humains. Alors, mais en étant honnête, ce produit de pure consommation se laisse malgré tout visionner sans trop de heurts si on a en tête qu'il s'adresse vraiment à un public d'ados. Hein. La mise en scène, plutôt en images, je dirais, est plutôt efficace, soulignée par une photographie soignée et un montage dynamique. Alors l'épilogue final ne laisse que peu de doutes quant à la suite. Hein. Un action-vérité 2, puis 3, puis 4, puis 5 paraît plus que plausible. Une nouvelle franchise qui peut, miracle, donner quelques bonnes surprises si les auteurs s'affranchissent de leur manque d'audace graphique et poussent le concept jusqu'au bout, permettant d'imaginer des situations délirantes. Après tout, on avait le deuxième Destination Finale qui était très très supérieur au premier. Mmh. Donc on peut très bien espérer une évolution de cette franchise.
Et des Destinations Finales, il y en a eu 5 Oui, 5, voilà. Allez, on retrouve l'actualité avec un film qui sort le 9 mai sur les écrans, Los Adioses.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Alors, Manu, est-ce que tu connais Rosario Castellanos ?
Non, pas du tout.
Eh bien, c'est un monument de la littérature mexicaine, symbole du féminisme dans toute l'Amérique latine et défenseuse des minorités indigènes. Hein. Rosario Castellanos, alors elle est peu connue en France, mais importante au Mexique. Et Natalia Beristain Egurola lui consacre un biopic, mais pour les plus profanes d'entre nous, eh bien, ne va rien dire de ce grand destin qui passe d'abord par la littérature. Car Rosario Castellanos est avant tout une femme lettrée qui a consacré sa vie aux mots et aux idées. Alors toutefois, ce film fragile, tout en nuances, léger et tendu à la fois, eh bien, raconte une femme dans sa relation amoureuse avec Ricardo Guerra, un professeur de philosophie qui d'emblée la séduit par son aura et une certaine forme d'arrogance. Celui-ci la retrouve quelques années après l'avoir lâchée pour on ne sait quelle femme. Alors c'est d'autant plus dommageable pour la grande écrivaine qu'elle vit un amour inconditionnel. Si la réalisatrice nous intrigue alors par leur retrouvaille au détour d'une conférence, elle titille notre curiosité en nous replongeant dans les années 50, eh bien, au moment de la rencontre de ce couple. À partir de ce moment, eh bien, le film ne quittera plus un montage alterné, mêlant des époques au point de nous perdre et de joindre avec brio un dialogue se passant à l'aube des 40 ans avec un autre se déroulant 20 ans plus tôt. Alors le principe est tentant et ma foi, eh bien, quand il est bien réalisé, on ne s'en prive pas. D'autant que le principe n'est pas vain puisqu'on aura finalement peine à comprendre comment cette grande femme éprise de féminisme pourra être autant aveuglée par son mari, qui est arrangé quand même parmi les dragueurs compulsifs, machos et jaloux pathologiques. Car cet homme ne supporte pas le succès de sa femme comme il ne supporte pas son appétit pour les mots et sa brillante carrière. Il devient, pour ainsi dire, son ennemi, essayant de lui faire renoncer à l'écriture, mais il souhaiterait également, eh bien, la cantonner au rôle de mère au détriment de son poste de professeur d'université. Ainsi, Rosario doit sans cesse s'affirmer et c'est cette émancipation que nous voyons à l'écran. Le temps de la découverte des mots, de l'intimidation, laisse place à l'écriture de romans, poèmes et manifestes, et également à une prise de position à l'égard de la femme mexicaine et de la femme en général. Alors, au-delà de ses combats politiques et sociétals, Rosario terminera d'ailleurs sa vie comme ambassadrice en Israël. Malheureusement, elle va mourir dans un accident domestique à base de courant ou je ne sais quoi. Et dans Los Adioses, eh bien, la réalisatrice a décidé de raconter le féminisme de Rosario Castellanos au travers de son histoire sentimentale, hein, en nous plongeant dans un mélodrame qui est porté tout en modestie et retenu par Karina Gidi. Mais c'est important, enfin bon, c'est tout le temps important au cinéma quand les rôles sont bien interprétés. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. Si ce n'était eh bien, le montage alterné qui donne un peu de dynamique, le rythme est plutôt lent. Mais il n'y a pas à attendre de suspense ou de dénouement. Il s'agit pour le spectateur d'appréhender l'histoire d'une femme brillante et son monde de solitude. Écrire, tu ne passes ton temps qu'à écrire, lui reprochera son mari. Los Adioses, c'est un film qui baigne dans une espèce de lumière blanchâtre aussi. C'est un film mexicain de Natalia Beristain Egurola qui sort dans très peu de salles, mais si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas à y aller.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Eh bien, on retourne vers quelque chose de plus commercial, on va dire, hein, avec donc Death Wish. Alors, c'est une drôle d'idée hein, de réaliser un remake d'un des plus célèbres et droitiers Vigilante des années 70, l'excellent Un justicier dans la ville de Michael Winner avec Charles Bronson. Alors, on ne peut pas vraiment taxer Eli Roth de facho, même si ses films ont toujours joué sur une réversibilité idéologique, que ce soit Hostel 1 et 2, ou encore Green Inferno, sorte de rip-off ironique de Cannibal Holocaust. Gentiment provocateur, hein, son cinéma ne laissait pas présager un tel propos douteux et surtout une telle absence de distance faisant presque passer l'original pour un modèle de subtilité. Alors l'histoire n'a pas changé, elle est toujours aussi basique. Hein. Paul Kersey, chirurgien, alors il n'est plus objecteur de conscience comme dans l'original, mais il mène une vie tranquille en famille dans les quartiers huppés de Chicago jusqu'au jour où sa femme est tuée suite à un cambriolage foireux, sa fille agressée est dans le coma. Alors face au laxisme de la police et de la justice, ce brave citoyen prend les armes et décide de se venger. Alors, apologie de l'autojustice la plus sommaire, un justicier dans la ville, Death Wish, on le ressent dans le titre original, mais bon, risque de faire plaisir à Trump et ses acolytes. Le pote de Tarantino a certainement voulu rendre hommage à un sous-genre du cinéma, défendable par bien des aspects, mais il pouvait se passer de livrer un produit aussi ouvertement réactionnaire. Alors, le monde a changé, hein, avancer les idées les plus sommaires des séries B d'exploitation avait son charme, mais dans des grosses productions actuelles, ça devient quand même nettement plus problématique. Le discours unilatéral n'a rien de transgressif ni de provocateur, hein. Il est juste le reflet de la bêtise crasse d'un récit qui ne cesse de donner raison à un brave docteur qui en a assez du laxisme de la police qui n'est plus au service des citoyens. Alors, à aucun moment, Eli Ross n'injecte du doute ou une quelconque ambiguïté dans cette team d'infantiles aux armes à feu et à la justice individuelle. La mise en scène est efficace, hein, au service d'un pur scénario de propagande qui tombe à une époque où le port d'armes est réellement un danger dans un pays de plus en plus violent. Alors, au moins, le film de Michael Winner prenait des pincettes, décrivait avec minutie la lente plongée en enfer de son anti-héros, plus hésitant que déterminé. Death Wish version 2018 n'a que faire de la psychologie, car c'est devient très vite une machine à tuer sans état d'âme. Mais le plus embarrassant là-dedans reste la prestation du pathétique Bruce Willis, encore plus monolithique que Charles Bronson, ce qui est quand même un exploit. Alors, à force d'écumer les nanars, hein, il se contente d'afficher une seule expression pendant tout le film. Dommage, car bon, j'apprécie plutôt Eli Ross, qui sait aller à l'essentiel quand il faut, à l'image du cambriolage du début, hein, qui est filmé avec un réel sens de l'économie et du rythme. Donc, bon, globalement, on va dire un remake inutile et encore plus belliqueux que l'original.
Donc, il vaut mieux revoir celui avec les moustaches de Charles Bronson.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, y a-t-il eu miracle avec ce film lituanien que tu as vu?
Alors, le miracle de ce film lituanien n'est pas forcément celui annoncé par son script plutôt caustique, mais par un ultime tour de passe-passe que bon, je ne dois de pas révéler. Hein, même si les premières minutes nous apportent sur un plateau d'argent une indication évidente que l'on oubliera malgré tout par la suite. Alors déjà, il faut replacer le film dans son contexte historique. Hein, après la chute du communisme au début des années 90, le système économique local est au plus bas. Le rêve collectiviste d'une idéologie dominante pendant près d'un siècle s'est effondré. Alors, il ne reste plus que des miettes, surtout dans les endroits les plus reculés de la Lituanie. Il n'y a plus d'argent pour payer les salariés. Cette crise a néanmoins donné quelques idées à des Occidentaux opportunistes venus racheter des usines, nourrissant les rêves les plus absurdes d'autochtones qui voyaient alors ces escrocs comme des sauveurs. Alors, le film s'inspire d'une histoire vraie, romancée sans doute, celle d'Irena, patronne d'une porcherie au bord de la faillite. Un jour débarque un drôle de type, Bernardas, dans une Cadillac rutilante, rouge. Il veut racheter l'usine pour remettre à flot l'économie locale. Alors, évidemment, pas besoin d'avoir bac plus 4 pour cerner tout de suite ce personnage cocasse, sympathique et roublard, trop généreux pour être honnête. Alors, séduite au départ, Irena va rapidement comprendre que l'objectif de Bernardas est d'une toute autre nature. Alors, Irena est un beau personnage de cinéma, hein, celui d'une femme forte qui a cru dans les valeurs du communisme, à l'image du slogan qui est affiché sur la ferme porcine, le bien sur terre s'obtient par le travail. Elle vit avec un mari alcoolique et n'est pas très estimée par les habitants qui voient en elle une cause de leur vie merdique. Alors, Egle Vertelit, c'est le réalisateur, hein, n'y va pas de main morte par ailleurs. Hein, la description du quotidien d'un petit village perdu au fond de la Lituanie s'avère déprimant de bout en bout. Entre les boutiques abandonnées où l'on vend tout et n'importe quoi, les fêtes locales cafardeuses avec son baloche sur fond de bon tant pis, ses gueules ravagées imbibées d'alcool. Alors, la campagne ne respire pas vraiment le bonheur, perçu alors sous son angle plus cafardeux. Alors, c'est certainement lucide, hein, pour insuffler un peu de respiration à cet état des lieux, le cinéaste tente d'injecter un humour à froid hérité de Coris Maki. Sauf que ça ne prend pas vraiment, le film n'arrachant que trop rarement des sourires. Hein. Le constat est juste, mais il manque au film une dérision, un sens de l'absurde qu'il aimerait pourtant s'approprier. Mais je pense que la forme trop austère empêche vraiment Miracle de décoller, hein, confondant alors souvent une épure et une certaine pauvreté visuelle. La mise en scène, elle est composée essentiellement de plans fixes, cadrés en 1:33, s'embourbe dans une banalité esthétique à peine rehaussée par quelques dispositifs bien pensés mais souvent systématiques, à l'instar de ces scènes d'intérieur où le réalisateur la parvient à faire ressentir une certaine misère humaine. Alors, notamment grâce à l'agencement des appartements, à la décoration on va dire passéiste, très glauque, limite angoissant, qui pourrait être d'ailleurs issue, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué depuis les années 50. Alors, intéressant sur le fond, hein, Miracle pâtit d'une forme un peu balourde, d'une symbolique chargée et surtout d'un regard souvent dénué d'empathie, excepté envers son personnage principal, excellemment interprété par Egle Mikulionite. Alors, le film finit par donner un peu le bourdon, mais Pas sûr que ce soit à son avantage. La lumière au bout du tunnel au terme d'un épilogue attendu révèle surtout un manque d'inspiration flagrant et une approche artificielle du cinéma comme si un happy end pouvait balayer 1h30 de déprime.
Miracle, c'est comme la plupart des films qu'on a chroniqués aujourd'hui, est en salle depuis le 9 mai.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors, on va faire très simple. Nous deux, on va prendre une voiture et on va aller à Cannes. Voilà, et on vous ramènera quelques petits reportages pour la semaine prochaine.